Pour ceux qui n'étaient pas là hier.
Oh là,
je recommence. Mais vous savez, on pourrait recommencer. Il y aurait beaucoup de. On pourrait réapprofondir beaucoup de choses de ce qu'on a dit hier. Alors, je fais quand même un tout petit peu résumé, puisque Françoise m'a dit, fait remarquer que je n'avais pas fait de plan assez précis. Alors, dans mon plan, c'était dans un premier temps de regarder la notion de peuple à l'aurore de l'humanité. Dans les temps les plus anciens, que les temps où on a le plus, encore quelques informations sur les sociétés primitives. Donc on a parlé des sociétés primitives, la notion de peuple dans la société primitive, et on a souligné combien le sacré et la religion est donc le fondement de la vie en société. Et que il n'y a pas le profane d'un côté ou le sacré de l'autre, tout est sacré. Tout est sacré et ça organise entièrement la société avec les cultes et en particulier les sacrifices. Et cette organisation de groupe, tribal, si je puis dire, ne laissait pas beaucoup de place à l'individu. Il n'y a pas de... Alors, l'individu est canalisé, en particulier la violence, toutes les rivalités, est canalisé par le biais des sacrifices. C'est très, très schématique, je vous le dis. Mais... Voilà. Donc, premier temps, un sacré parfaitement immobile, parfaitement stable, et qui ont donné des groupes humains qui ont traversé des millénaires et des millénaires. Jusqu'au troisième millénaire avant Jésus-Christ, où il y a l'apparition de l'État. Alors, deuxième phase, c'est l'État. Cette organisation du peuple va introduire des différences au sein des personnes. Il va y avoir des dominants et des dominés. Le sacré va être incarné par l'empereur, le pharaon, et les gens autour de lui. Donc il y aura une classe de dominants, et le pouvoir, ça sera établir une hiérarchie, voulant dire pouvoir sacré. Hieros, c'est sacré, et arché, c'est le pouvoir, gouvernement. Donc, tout pouvoir est sacré. Et donc, cet État introduit des facteurs d'instabilité par le fait qu'il y a des personnes qui sont dominées en interne et en externe. L'Empire a tendance à s'étendre et à combattre, à avoir un esprit de conquête, et établir une violence externe. Donc, ces deux types de violences sont des facteurs d'instabilité, mais l'Empire va tenir en s'habillant du sacré, et donc à avoir la possibilité de dominer les personnes. Donc, d'une certaine façon, ce sont des pouvoirs despotique. Alors le terme n'est pas adapté à eux parce que, si vous voulez, les empereurs avaient aussi la mission, si je puis dire, de gérer le peuple. Ils n'étaient pas a priori comme ça uniquement en position de dominer, mais une position de gérer et de faire du bien à son peuple. Donc on a trouvé des documents très anciens pour les pharaons où il y avait toute une éducation des pharaons pour gérer et faire peuple. Mais n'empêche que la tendance à la domination va naturellement s'imposer. Alors parallèlement à ces deux époques de l'humanité, pour la première époque j'ai mis en parallèle Abraham. Abraham qui reçoit l'ordre de partir, donc de couper sortir de son milieu social. Et donc, c'est vraiment une rupture fondamentale par rapport au sacré. Le sacré va se mettre en mouvement, partir, quitter, va vers toi, plus cette expression vers toi implique une intériorisation, déjà l'amorce, hein, une amorce, c'est encore très, très, très ténue, mais une amorce d'intériorisation et une mise en mouvement, et cette mise en mouvement va être conditionnée par la confiance que fait Abraham à une parole. C'est cette parole qui va être le sacré. Et cette parole qui va être sacrée, et non plus des dieux, le sacré se concentre sur la parole, et non pas sur, comme dans la pensée magique précédente, sur toutes sortes de forces, ou les objets, les événements, étaient chacun et chacune porteurs, hein, de sacré. Tandis que là, il y a une concentration sur la parole. Alors, ça, c'était donc, il y a une première rupture du sacré avec Abraham par rapport aux sociétés primitives, et il y a une deuxième rupture avec Moïse, le livre de l'Exode, où le peuple qui est esclave en Égypte, la tribu des Hébreux est esclave en Égypte, et ils reçoivent l'aide de Moïse pour se libérer. Moïse étant la parole de Dieu, porteur de la parole. Et ce Dieu, donc, leur demande de se libérer, de sortir d'Égypte, donc de sortir de ce système de domination sacrée. Donc là, nouvelle rupture du sacré. On a vu que Moïse a eu énormément de mal à emmener le peuple, hein, à laisser le pharaon, pour que le pharaon puisse laisser partir ce peuple. Voilà, donc le peuple s'est constitué au désert avec la loi. Ils vont recevoir la loi. Hein. Pour constituer un peuple, il y a un certain nombre de composantes. Hein. Il y a une composante ethnique, mais là on a vu que c'était effectivement les descendants d'Abraham, mais auxquels s'est mêlé tout un ramassis de gens. Donc le facteur pureté ethnique, il est tout à fait relativisé. Donc il y a le facteur ethnique. Après, il y a, pour constituer un peuple, il faut un territoire, un territoire, un pays, une patrie. Hein. Et là, dans le désert, ils ne l'ont pas. Ils sont errants. Et le troisième aspect, c'est des règles de fonctionnement. Hein. Pour qu'il y ait un peuple, il y ait des coutumes. Il faut des coutumes, des lois pour vivre ensemble. Et là, c'est ce qui va être donné au peuple hébreu, au mont Sinaï, avec la loi de Moïse. La loi plus toutes les us et coutumes qui vont être tout à fait précisées, qui va donc permettre au peuple d'avoir un comportement homogène, un comportement homogène au quotidien. Mais il n'y a pas de territoire. Et pas de territoire. Alors là, après cette période de 40 ans au désert, ils vont rentrer au pays de Canaan et là, ils vont avoir un territoire. Et cette rentrée qui se fait difficilement parce que le peuple a peur de s'affronter à des forces beaucoup plus puissantes que lui, hein, et Yahvé leur dit, n'ayez pas peur, hein, n'ayez pas peur, allez-y. Allez-y, pas, et vous pouvez affronter ce qui leur paraît être des géants. On a fait la comparaison, si vous voulez, avec hier, on a fait la comparaison avec ceux qui sont les géants aujourd'hui dans notre société, etc. la finance, les grosses sociétés. Mais là, il y avait leur dit, allez-y quand même. Alors, c'est tout petit. Il leur avait dit, bien, il y a vous. Ce peuple, je l'ai choisi, mais ce n'est pas parce que vous êtes très nombreux, ce n'est pas parce que vous êtes très forts, ce n'est pas parce que vous avez des tas de mérites, rien de tout ça. Hein. Je vous ai choisi simplement parce que je vous aime. Donc, il a introduit une notion hein, tout à fait originale, hein, une notion affective dans la relation avec un peuple. Hein. Donc, cette relation affective, elle va être au cœur du développement. Ce peuple ne va pas pouvoir se développer sans ce facteur de la relation entre les personnes. Donc c'est cette relation entre les personnes, entre d'abord le peuple avec son Dieu, qui va se répercuter sur la relation entre les personnes au sein du peuple, qui sera le facteur de développement. À l'inverse de la puissance, qui va s'affronter. À l'inverse de la puissance, où la puissance s'impose par la force. Alors, donc ce peuple se développe, s'installe, et ils vont demander un gouvernement, parce que malgré tout, ils tombaient dans l'anarchie. Anarchie, c'est-à-dire pas de gouvernement. Et donc, ils réclament à Dieu un roi. Bon, pour que ça soit. Pour arrêter l'anarchie. Bon, ce Dieu. Les met en garde très 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 vigoureusement, n'est pas du tout d'accord au départ, parce qu'en leur disant si je vous mets un roi, eh bien ce roi va avoir naturellement hein, la tendance à vous exploiter hein, et à vous asservir. Le peuple dit non, 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 on veut quand même. Bon, finalement, il y a les rois. Donc le peuple hébreu va rentrer dans cette période. Entre le premier millénaire, à partir de l'an 1100 ou 1500, par là. Parce que là, maintenant, on rentre dans l'histoire. Tout à l'heure, on était dans les mythes. Hein, et progressivement, on est passé du mythe à la proto-histoire, et maintenant, on est dans l'histoire. Hein, c'est-à-dire qu'on sait les dates. Bon, encore millénaire, c'est encore assez, assez flou, les dates, mais progressivement, ça va se préciser. Et donc, dans cette période où il va y avoir des rois. Bon, le roi Saül, on a dit que ça avait été une catastrophe. Après, il y a eu le roi David, qui est le roi excellent, hein, qui sera ce roi qui ne se prend pas pour un roi. Hein. Donc, ce roi qui ne se prend pas pour un roi il va fédérer d'abord vraiment le peuple. Et puis, il va recevoir la promesse de son prophète Nathan que sa royauté sera éternelle et que le royaume sera éternel. Oui. Petit royaume de rien du tout, au milieu de grands empires. Hein, et il reçoit la promesse que son royaume sera éternel. Et en même temps, en lisant, Tu suivras la loi. Tu n'auras pas, donc, les 10 commandements, c'était tu n'auras pas d'autre Dieu. Pas d'idolâtrie, on a parlé de l'idolâtrie, hein, et pas d'idole, pas de représentation de Dieu. N'essayez pas de vous imaginer comment est ce Dieu. Pas de représentation, simplement écoutez la parole. Hein, écoutez la parole. Et donc, cette parole. À ces époques-là, arrivés par les prophètes, il n'y a pas encore d'écrit, hein, l'écrit n'existait pas, est en train de naître, hein, donc, et effectivement, il va y avoir les premiers écrits à ces époques-là, mais c'est essentiellement la parole des prophètes qui sont des gens inspirés, hein, qui ont reçu un appel pour transmettre cette parole. Et ces prophètes, le plus souvent, refusent. De porter ça, de porter la parole, ils en ont très peur. Hein, et leur premier instinct, c'était de dire non, non, pas moi. Et puis, bon, ils sont amenés quand même à une énergie. Tout d'un coup, ils sont portés par une énergie incroyable. Hein. Ces prophètes, ce sont des gens qui ont une très, très, très grande force, puisque ils vont modifier l'histoire de l'humanité. Hein. Il faut bien voir que cette époque des prophètes d'Israël, c'est un grand tournant dans l'histoire de l'humanité, et qui se situe à la même époque que justement cette période axiale qui est autour de 700 et 400 avant Jésus-Christ, qui a vu naître Confucius, Tao, Lao Tzu, enfin c'est tous les grands sages sont apparus à cette époque-là. Et donc, les prophètes d'Israël aussi à cette époque-là. Alors, les prophètes d'Israël, la très grande particularité de ce prophétisme d'Israël, par rapport aux grands sages qui sont apparus dans d'autres civilisations, qui étaient proches, hein, d'ailleurs, parce que la Perse n'est pas loin, Zarathoustra, bon là, tout ça, il n'est pas très très loin. Et la grande particularité, c'est que ces prophètes appellent effectivement à un changement intérieur, un changement intérieur, à une élévation, si je puis dire, hein, un peu comme l'intériorité et une élévation, mais en s'inscrivant dans l'histoire, dans les événements historiques. Hein. Donc ils sont amenés à intervenir dans les événements historiques. Donc il y a une dimension politique, hein, puisqu'ils vont s'affronter au roi, au prêtre, tout ce qui est institutionnel. Hein. Le roi et le prêtre, ils vont s'affronter et dénoncer les dérives de ces élites. Encore une fois, là, ils vont dénoncer, c'est là qu'émerge la notion de péché, hein, le péché qui est essentiellement porté par les élites, hein, de deux façons. En ayant des cultes aux idoles, à tous les autres dieux du pays. C'est très très difficile, hein, pour le peuple hébreu d'avoir un dieu comme ça, un peu abstrait, pas de parole, pas de matérialisation, pas d'événements magiques à tout instant. C'était très sobre, hein, et donc très difficile. Donc ce peuple-là aura tendance à faire des cultes aux autres dieux locaux, en particulier les dieux de la prospérité. Hein. Alors c'était Baal, de la fécondité, hein. Déesse de Astarté, déesse de la fécondité, Baal, la puissance ou le taureau. Hein. C'était la force, la domination. Bon. Donc c'était très difficile pour eux de se démarquer de ces dieux. Donc les prophètes vont réaffirmer très fortement le monothéisme, c'est-à-dire il n'y a qu'un seul Dieu, hein. Il n'y a qu'un seul Dieu et tout le reste c'est du vent. Bon, ça c'est le premier péché, et le deuxième péché c'est l'injustice et qui est le fait effectivement de ceux qui dominent, hein. Donc la promesse d'une éternité du royaume, paradoxalement, à la fois c'est une promesse éternelle et en même temps elle semble totalement conditionnée, hein, à l'application de la loi. Donc c'était Willy hier qui a bien montré la contradiction entre d'un côté une éternité et puis de l'autre côté, ben, c'est conditionné à la loi. Donc si on n'obéit pas, ben, ça va se produire. Donc, si ça ne se produit pas, ben, la promesse, elle ne tient plus. Enfin, vous voyez le dilemme. Et ça, c'est le dilemme de Yahvé. C'est le dilemme de Yahvé qui dit tous.